France Inter. Ce soir, nous allons revenir sur la vie et l'œuvre du légendaire photographe, reporter et cinéaste Raymond Depardon, qui a immortalisé presque tout ce qui compose la société humaine. Conflits internationaux ou actualités locales, événements politiques ou mondains, aliénés, condamnés, malfrats, otages, rebelles, vivants et morts ont été capturés par cet homme du peuple dans son sens le plus littéral et le plus noble. Cofondateur de l'agence Gamma, le discret a sillonné les continents pour photographier et filmer ses congénères et leur environnement. Auteur du magistral triptyque documentaire Profil paysan consacré au monde rural français, il donne à voir l'intimité de la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, la camaraderie et la langue fleurie des intrusifs paparazzi, la 8e section du palais de justice de Paris, des audiences de patients hospitalisés dans des institutions psychiatriques contre leur gré, ou encore des comparutions immédiate. Ce soir, nous revenons sur la vie et l'œuvre de l'auteur d'une vingtaine de magnifiques films comprenant des fictions et de plus de 70 livres de photographie à l'occasion d'une quadruple actualité. La parution de son ouvrage Désert en juin dernier aux éditions de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, son exposition Extrême Hôtel au pavillon populaire de Montpellier consacré à son travail photo couleur, Auschwitz-Birkenau vu par Raymond Depardon au mémorial de la Shoah et surtout la grande rétrospective de son œuvre au Festival Cinéma de Montpellier, où il est invité avec son épouse et collaboratrice Claudine Nougaret. Événement qui sera accompagné de ressorties de leurs films en salle dans plusieurs villes de France tout au long de l'année. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Raymond Depardon.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé ? C'est un film que j'ai vu à Montpellier, là, au cinéma. Le film de François Ozon, L'étranger. Et il y a des belles choses au début, comme ça, sur l'ambiance des rues d'Oran en 60. Les voitures, comme ça. C'est du studio au début. C'est tout fait en studio. Mais ça m'a rappelé mon expérimentation que j'ai eue de l'Afrique. Donc dès les années 60, on savait que ça allait être indépendant, mais ça traînait et les photographes ne voulaient plus y aller. Les photographes beaucoup plus confirmés que moi, alors on disait tiens toi et hop. Et donc j'avais un peu peur, mais j'avais aussi à la fois c'est extraordinaire quoi, parce que quand t'arrives à 18 ans sur la baie d'Alger ou d'Oran et que tu vois toutes ces constructions et que t'as quitté la Côte d'Azur ou le Midi Marseille qui est quand même plus pâle et là c'était waouh, tu dis qu'est-ce qu'ils ont ils ont travaillé et puis malheureusement c'était pas notre pays mais il y a quelque chose d'assez touchant quand même parce que voilà et bon le problème c'est de faire des photos sans se faire casser son appareil.
Parce que vous l'êtes fait voler à plusieurs reprises au cours de votre carrière.
Alors voilà la moindre photo comme ça bien sûr et à la fois j'étais un métropolitain et à la fois je voyais bien la population algérienne disait bah oui. Vous êtes un peu plus doux, je disais, mais moi je fais la même école que vous, quoi. Et ils étaient contents de me voir aussi, de me serrer la main, parce que c'était les premiers Français, voilà, j'arrivais de la vallée de la Saône, moi, et de mes parents, et donc c'était impressionnant, et c'est vrai que mais il y a une lumière. Et les platanes, on voit bien déjà qui commencent au sud de la France, tout ça, c'est les tuiles romaines, les cafés, les terrasses.
Vous dites que la belle lumière, c'est trompeur, c'est un piège dans un de vos films.
Oui, bien sûr, parce que une photo repose sur la lumière sans doute, mais pas que la lumière. Moi, je pense qu'on peut dire aussi ça d'un cadre, d'un bon tableau. C'est pas que la lumière non plus. Mais c'est vrai que on est tenté de faire des photos quand il y a une belle lumière. Et à la fois, il faut essayer de dépasser un peu, peut-être, l'esthétique tout simple, tout bête d'un coucher de soleil. Mais pourtant, je vois, nous, comme nous sommes très sensibles, peut-être moi qui suis maintenant dans une agence avec beaucoup d'anglais, et je trouve que la lumière est quelque chose d'important autour de la Méditerranée, mais même en France, même à Paris.
Vous avez photographié toutes les strates de la société, vous avez fait la photo officielle de François Hollande lorsqu'il était président, vous avez lu le sociologue qui s'est beaucoup intéressé aux apparences, Erwin Goffman. Est-ce que les gens se tiennent comme leur fonction le voudrait? En d'autres termes, est-ce que la fonction dicte le comportement ou l'habit fait-il le moine?
Ah ça, ça a été on était un peu... Moi, je me souviens découvrir un peu Grégory Bateman ou d'autres, ou même, et puis David Strauss et tout ça. Donc, effectivement, à la fois, ça nous rassurait. Moi, ça me rassurait en tant que cinéaste et photographe. Il y avait toujours du mystère. C'était pas évident, la bonne photo, c'était pas évident le bon plan, quoi. Il y avait plein de choses de non-dit. Et c'est vrai que quand ils disent que 80% passent par autre chose que la parole, dans la communication comme ça, scène de vie conjugale, oui, de Gregory Bateson, tout ça. Les sociologues se sont beaucoup intéressés à ce moment un peu entre les deux et que la caméra, effectivement, a commencé à retenir, pas la caméra de fiction, la caméra du documentaire, c'est-à-dire avec une durée de pas trop bouger. Et moi, c'est vrai que ça m'a peut-être changé un peu ma façon de voir parce que j'aurais peut-être trop bougé et que je me suis aperçu que pour bien entendre, il ne faut pas trop bouger.
Alors j'ai une question à ce sujet, puisqu'il y a plein de films où vous suivez des aéropages de journalistes et on n'entend jamais le bruit de vos pas. Alors comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des techniques pour être inaudible, invisible, comme un espion?
Non, mais... Bon, d'abord, effectivement, il y a quand même une façon d'être. C'est sûr que... Il faut faire attention. Alors c'est vrai que quand ça dure très longtemps, ce qui est le cas dans les entretiens dans le palais de justice comme ça, si on bouge pas trop, si on se montre pas trop, les gens forcément ont tendance à vous oublier. Alors ça veut pas dire que je repose. Bon, c'est pas du viol, c'est pas du. Mais c'est quelque chose qui fait que les gens se sentent en confiance plutôt. D'abord, ils me donnent leur autorisation. Et moi, je leur fais signer une lettre ou après. Je suis attiré par ces gens et je les aime un peu. Hein, même si c'est des gens qui ont vraiment pas eu de chance dans leur vie, hein, qui arrivent comme ça, et des monotes, et qui viennent de... Et j'ai envie de leur dire, ça va aller mieux, ça va. Mais je suis pas psychiatre, ni infirmière, ni policier, ni rien. Mais j'ai envie de les écouter, de leur parler, de les faire sourire un peu moi aussi. Et donc effectivement, la meilleure façon que j'ai à leur rendre service, c'est à les rendre dignes un peu.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Raymond Depardon, il y a quelques années, vous disiez que vous aviez vu, en la sillonnant, une France très vivante, extrêmement dynamique, et que ça vous avait rendu de plus en plus optimiste. Alors la question est la suivante, comment la ressentez-vous aujourd'hui, cette France?
Oui, elle est un petit peu plus, oui, un peu plus cafardeuse. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai suivi ce que des millions de gens ont fait. Il n'y a rien de très original là-dedans. C'est que je suis monté à Paris. Voilà.
Mais très tôt.
Oui, très tôt.
Vers 15 ans.
Alors, c'est
et
vrai
demi.
Que à Paris, c'était pas le même Paris, et puis la province, c'était pas la même non plus. Hein. Et alors, peut-être que les moyens d'information, le cinéma, la télévision, la radio, les journaux, peut-être on déplaçait les choses. Il y en a qui en bavent, hein, on voit ça, surtout en région, parce que c'est difficile. Et à la fois, bon, il y a des régions tellement, tellement belles, tellement incroyables. Donc, bon, moi je pense que c'est une question d'individu, de personnalité, parce que on peut être heureux à Paris, ou on peut être heureux aussi à Périgueux, ou je sais pas où. Mais c'est vrai que les professions comme ça, et notamment c'est pour ça que j'ai fait des films sur les agriculteurs, parce que je sentais bien qu'il y avait... Les gens ne diront pas, mais ils aiment bien les paysans, mais en fait non, ils n'aiment pas tellement bien les paysans. Il y a des trucs. Mais ça fait partie les Français ne sont pas contents, comme ça. Bon, alors, les choses que je peux faire déjà, moi... C'est faire parler, depuis des années, hein, 10 ou 20 ans, les femmes. Ça, c'est sûr qu'on peut... Et notamment les magistrates, mais aussi les victimes et les condamnés, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde. Et ça, c'est déjà bien. D'abord parce que les femmes s'expriment plutôt bien. Ils vont direct au but. Elles ont peut-être une qualité, comme ça, dans l'oralité, qui est très forte. On m'a reproché, quand j'ai fait des photos de la France, que j'avais photographié un peu une France moche. Mais je l'ai fait exprès, un peu, bien sûr, parce que quand même, quelques fois, il y en a qui font quand même... c'est bon. Ils le font exprès, quoi. Des panneaux nuls, comme ça, des peintures sur des murs, sur des maisons. C'est vrai qu'il y a... Et puis ces villes nouvelles, comme ça, en pleine campagne. Donc, il faut réfléchir un peu, mais il faut s'améliorer. Mais moi, je ne peux pas photographier toujours les plus beaux villages de France.
Vous qui avez photographié et filmé l'humanité depuis si longtemps, qu'est-ce qui a le plus changé chez elle depuis que vous avez commencé votre carrière ?
Moi, je pense que c'est les gens s'expriment de mieux en mieux.
Ah bon ? C'est la première fois que j'entends ça.
Ah oui, c'est. Avant, quand j'ai tourné Fait d'hiver, par exemple, ou Délit flagrant, avec Claudine... Il ne disait rien, quoi. Et on savait que ceux qui disaient rien avaient le plus de choses à dire, quoi. Ou ils mentaient, ou ils s'enfermaient, quoi. Bon. Mais les Français, quand même, s'expriment plutôt bien. C'est un peuple latin qui s'exprime, quand même. Vous voyez, comme moi, là, j'ai pas fait d'études secondaires, mais je parle quand même. Bon, et donc, il y a beaucoup de gens, et même les paysans, les agriculteurs, les chômeurs, tout ça. Peut-être ceux qui sont les plus silencieux, c'est les enfants, les ados. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai jamais voulu faire trop de films sur l'adolescence, parce que peut-être que ça m'a pas marqué, mais je pense que c'est toujours un peu casse-gueule, ces films-là, parce que ils disent rien, c'est pas facile. Alors on dit c'est l'avenir de la France, c'est des jeunes, c'est formidable. Moi, j'ai un peu peur. Non, moi, ce que j'aime bien, moi, c'est plutôt les femmes. Je trouve que les femmes ont changé en 30 ans, 40 ans. Alors, voilà.
Alors, d'ailleurs, quelqu'un vous avait fait remarquer qu'il n'y avait pas de femmes dans vos films, et c'est ça qui vous a fait vous dire, tiens, je devrais peut-être me marier.
Oui, bah oui, bien sûr, parce que j'ai mis 10 ans à faire 3 films sur les paysans, avec Claudine. Donc Claudine, j'ai eu la chance de la rencontrer, elle faisait la prise de son, on travaillait ensemble, puis après elle a commencé à produire nos films.
Et en co-réaliser certains, oui, aussi,
et ça c'était important. Et c'est vrai qu'on a été dans des régions, moi j'ai exprès, parce que j'avais jamais pu filmer mes parents, c'était difficile, je sais pas pourquoi, puis ils étaient plus là.
Et votre père, vous avez jamais pu le prendre en photo?
J'avais un vrai regret, pourquoi personne n'a plus importante. Et donc, quand on m'a proposé, il y a eu d'abord 2-3 journaux qui m'ont proposé de travailler sur ce sujet-là. Mais j'ai découvert la diagonale du vide, qui est cette grande tranchée qui part du nord et qui va finir dans l'Aube, avec le Vercors, toutes ces régions comme ça, un peu désertiques. Ça a été le plus dur pour moi, parce qu'il a fallu que j'aille souvent les voir. Avec un appareil photo, comme ça, papoter, boire... moi, je bois pas de vin, mais boire un petit canon, comme ça. Et puis, discuter. Et puis, à un moment, là, le miracle se produit. Et là, le miracle, c'est... Bah, je suis content de vous voir, quoi. Et ça, c'est... Ça. Donc, ça prend du temps. Moi, les vieux garçons, maintenant, qui n'existent plus, je suis bien content de les avoir filmés, parce que c'est le seul moment où on a pu les rencontrer, les voir, les filmer, rester avec eux. Et aujourd'hui, c'est fini, ils seraient plus là, quoi. Ils sont plus là, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est important de garder. Et puis, ils étaient très en avance. Moi, je sais que c'est eux qui me prédisaient qu'on allait dans le mur. On dépensait trop de choses. Ils étaient écologistes avant le mot. Ils étaient déjà d'une certaine humanité incroyable, sans être socialistes ni rien, mais ils avaient une générosité que... Bon, voilà, moi je suis catholique. Il y a des catholiques qui sont comme ça aussi, bien sûr.
Vous croyez en Dieu ?
Oui, quand ça va mal.
Ça a changé alors, ou vous êtes accommodé ?
Quand ça va mal, mais quand ça va bien aussi.
Parce qu'avant vous disiez, je ne suis pas spécialement religieux, mais j'attends le miracle, et là vous dites, je crois en Dieu.
Oui. Oui, ben, le cinéma, c'est comme ça, il y a un petit peu coup de, il y a le coup de chance, quoi, et puis il y a le miracle. Parce que on tourne comme ça, ça tourne. Alors, on sait que ça coûte un peu de l'argent, parce que c'est du film, ou c'est du son, enfin. Et puis, il faut être croyant, parce que, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose dans la scène qu'on est en train de filmer. Et puis, un petit miracle, comme ça. Il y a des choses très simples. Des choses très simples que Claudine m'a appris à écouter. Même moi, j'écoutais pas parce que j'étais un homme, je faisais pas attention. Vous savez, un monsieur agriculteur qui est sur une table comme ça, avec une toile cirée, une casquette et tout. Et puis, qui parle, et puis d'un seul coup, il dit « Paulette, fais-nous donc le café ». Et ça, c'est bon, voilà. Donc ça reste encore comme ça. On croit que c'est une caricature, pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses qui, comme ça, le matriarcal, le machisme, voilà. Mais il y a des surprises quand même. On est surpris parce que des gens comme ça qui vivent parfois isolés sont des fois souvent plus en avance, ont l'esprit plus ouvert que des gens qui vivent en ville enfermés.
20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Voilà, c'est aussi trois vitesses et trois rythmes. Il y a peut-être la première, la deuxième et la troisième.
C'est pas les premières, deuxième et troisième des vitesses de camions, ça.
Si, c'est sur les vélos, sur les camions, et les gens ont besoin d'un changement, ont besoin de changer de vitesse. Je crois que ce qui les intéresse encore dans la bagnole aujourd'hui, c'est au salon. Quelqu'un m'a raconté qu'il a vu des grands salons. Les gens, quand ils arrivent dans les voitures, la première chose qu'ils touchent, et surtout les hommes, c'est le changement de vitesse.
Et pourtant, on va vers les boîtes automatiques.
Oui, parce qu'on a peur de la vie aussi.
Et puis on a peur de changer de vitesse.
Et on a peur, on voudrait bien le déléguer à l'autre pour pouvoir le critiquer. Et on a peur de le faire soi-même, parce que changer de vitesse, c'est... Bon, je ne veux pas employer le mot révolution qui est trop grand, si vous voulez, qui est trop fort, mais changer de vitesse, c'est changer de vie, c'est aller ailleurs, c'est pas facile.
Raymond Depardon, on entend un extrait de Reporter, c'est l'extrait où Jean-Luc Godard est à la Cinémathèque lors de la première de Sauf qui peut la vie, au micro de Max Meynier. Et il parle de changer de vitesse et de ce besoin qu'on a. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, puisque vous avez alterné entre confesseur universel, à écouter tout le monde, et l'art de la fugue la plus totale en camion, dans le silence absolu?
Oui. C'est faire des films comme j'ai fait, après avoir fait une carrière de photographe, et je continue à être photographe, mais ça veut dire que c'est complètement de l'anti-scoop. C'est vraiment, il se passe rien. Et j'ai commencé à me rendre compte que finalement, les temps faibles, je prenais le challenge de les monter en temps fort, non pas en trichant, mais en écoutant, en attendant. Il y a un moment donné, les gens finalement mettent beaucoup d'intention et beaucoup de passion. Et c'est pas forcément les hommes politiques. Ça peut être des gens comme ça. Aussi bien des photographes, des gens qu'on a arrêtés dans la rue, comme ça. Voilà, donner la parole à beaucoup de gens comme ça, et des temps faibles. Et puis d'un seul coup, bon, ben voilà, les gens craquent, ou racontent, ou s'énervent, ou disent quelque chose qui fait que on n'aurait pas entendu ça au journal télévisé, parce que, voilà, parce qu'on est poli. Et là, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de hiérarchie. C'est pour ça que on travaille avec Claudine, on travaille à deux, quoi, parce qu'on ne veut pas être trop nombreux, on ne veut pas faire un écran, et on veut leur faire confiance et à tout le monde. Et ça, c'est important, je crois. Bon, ceci dit, je pense, j'espère que, comme les caméras sont de plus en plus présentes en vidéo maintenant, que les téléphones ont fait de plus en plus de photos, la photo va être quand même très présente de partout. Dans le siècle qui vient de passer, on aura une idée de ce que les gens vivaient. Bon, mais néanmoins, je me souviens qu'avec Claudine, on a fait un débat dans un cinéma à Orléans. Et puis on a dit, voilà, on tourne une vingtaine, trentaine d'or, 40 or, 50 or. Et puis on monte, on écoute, et on sélectionne. Ça, c'est un truc très difficile, mais c'est très personnel. Et donc, il y a deux, trois personnes qui sont levées dans la salle, qui ont dit, nous, on est des chercheurs de l'Orstom, ou des organismes comme ça. On travaille sur la parole des présidents de la République, des ouvriers, des ça. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir accès à votre matériel? Alors on dit, avec plaisir.
D'ailleurs, vous parliez de donner la parole. Je signale qu'un de vos moyens-métrages, Donner la parole, est avec un autre chasseur et chaman visible à la Fondation Cartier à partir de sa réouverture le 25 octobre prochain. Il y a une question que je voudrais vous poser, mais c'est vraiment de la curiosité personnelle. Vous avez filmé, vous avez photographié un auteur de polar que j'affectionne, qui est James Hadley Chase. Oui. Et sur la photo, il y a une chèvre.
Il y a une eau.
Une chèvre. Comment s'est-elle retrouvée là? Est-ce que vous avez le souvenir de la jeunesse de cette photo?
C'était au salon du livre, je crois. Il me semble, Porte de Versailles. Ou s'il n'était pas aux Portes de Versailles, il était au Grand Palais à cette époque. C'est au tout début des années 60, 61, 62. Mais ça me disait quelque chose quand même. Parce que c'était un stand de série noire, de Gallimard. Et moi, à l'époque, je faisais des photos flash, Rolleiflex, comme ça. Et c'était un bel homme. Et j'ai fait ces photos comme ça. Je pouvais pas en faire trop non plus, parce que on m'aurait dit, mais tu gâches de la pellicule, mais j'en ai quand même fait, je crois, une bonne dizaine. Je crois qu'il y a un ou deux films quand même. Alors, faudrait revoir les planches contact, voir qu'est-ce qui a généré tout ça, comment ça s'est terminé, comment ça a commencé.
Oui.
Vous voyez, c'est une vraie enquête policière.
Vous avez loupé des photos de Khrouchtchev et de Gaulle. Est-ce que vous avez eu d'autres ratages?
Oula, j'ai pas arrêté, moi, de rater des photos. On n'arrête pas de rater des photos parce que, une fraction de seconde où on est mal placé. Donc il faut toujours être très, très modeste, hein. ça c'est assez sûr. Et puis,
vous avez des regrets?
Non, je n'ai pas de regrets, parce que c'est pas grave, hein, quand même, non plus.
Et des regrets de photos que vous avez faites?
Des regrets que j'ai faits?
Oui, par exemple, je ne sais pas, je pense à Brigitte Bardot, par exemple.
Oh non, au contraire.
Dont vous avez vendu la planque.
Au contraire, mais je l'ai vu si peu de temps que ce que je regrette aujourd'hui, c'est que j'ai pas pu lui parler et que j'ai pas pu me présenter. Alors c'est pas le cas de Catherine Deneuve. On avait tous les deux 16 ans, on a fait 16-17 ans, on a fait une photo des jeunes premières qui allaient monter, j'ai fait les 10 débutantes comme ça, et elle était là avec sa sœur d'ailleurs. Et puis après, elle a vu que c'est moi qui avais fait cette photo, donc on a parlé. Et il y a une sorte de complicité formidable entre tous les deux, parce que disons qu'on a commencé ensemble, moi comme photographe, elle comme actrice.
Vous avez bien réussi.
Et puis après, j'ai suivi sa carrière, bien sûr, les grandes premières sur les Champs-Élysées. Et non, je regrette. Non, moi j'aime bien les photos comme ça, naturelles. Alors bien sûr, les photos naturelles, elles ont un risque, c'est que des fois, les gens sont moins... C'est moins flatteur, quoi.
Et les photos de conflits, les photos de cadavres, il y en a qui vous hantent encore aujourd'hui?
Oui, au plus beaucoup maintenant. Je crois qu'il n'y a plus de gens qui font de faits divers comme ça. Même le Parisien, je crois qu'ils font plus...
Mais vous, ça vous hante, des choses que vous avez vues? Parce qu'il y a certains de vos clichés qui sont,
oui,
effroyables.
Oui, mais ça, c'est dans les catastrophes, les grandes famines, ou les famines de Touareg, par exemple, les famines des Bangladesh, ou des catastrophes, c'est impressionnant, quoi, bien sûr. C'est surtout peut-être la disparition aussi des amis photographes qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire des gens comme Gilles Caron,
avec lequel
des
vous avez fondé
Michel
l'agence
Laurent.
Gamma, qui est mort parce qu'il a été capturé par le Khmer Rouge.
Je regrette, moi, ça me fait...
Vous avez mis la pédale douce sur l'actualité après la mort de Gilles Caron.
Oui, d'abord parce que je cours pas assez vite maintenant.
Non, je vous crois pas.
Parce qu'un bon photographe, ça doit courir vite et rien dire et fermer sa gueule et puis tchac 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 en silence et bien voir les choses, quoi. Et toujours être bien placé. C'est un peu comme la boxe, ça pop 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 tout. Et donc c'est un rythme, effectivement. Et il faut pas avoir trop de matériel. Il faut pas être voilà, il faut être rapide.
Voilà, c'est ma dernière visite de cette campagne présidentielle.
La porte bonheur.
Pardon ?
La porte bonheur.
Ça porte bonheur.
Oui.
Merci.
Oui.
Et j'ai voulu que cette visite soit dans un village. Parce que j'ai pensé que dans cette campagne, il ne fallait pas seulement chercher le nombre, il fallait chercher les hommes, les femmes là où ils sont, et notamment dans les villages de France. Nous sommes dans un village qui est de 70 habitants, je crois.
Oui, mais si vous voulez.
C'est l'un de vos films, Raymond Depardon, tourné en 1974 sur la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, une partie de campagne longtemps censurée, sortie en salle en 2002. Et c'est un long métrage, alors je ne vais pas vous poser les questions que tout le monde vous a posées sur ce long métrage, mais il y a une chose qui m'intéresse, c'est que vous avez découvert sur ce long métrage, en termes de formalisme, que laisser sortir Giscard du cadre vous permettait de le reprendre où vous vouliez sur le plan suivant. Qu'est-ce que ça signifie ?
Bah, j'ai compris un peu comment ça marchait le cinéma, quoi. La différence entre... Et c'est vrai que comme photographe, moi, si j'avais un candidat ou un président ou un homme politique ou même un acteur, je reste toujours prêt à faire une photo s'il se passe quelque chose. On pense toujours comme ça à cette fameuse photo de l'assassin de Kennedy. Et c'est vrai que le cinéma, c'est tu t'arrêtes, Raymond. Là, il y avait le monteur, m'a tout le temps dit comme ça, tu arrêtes la caméra, il va rien se passer, personne va tuer Giscard d'Estaing, et tu redémarres à 45 degrés. Mais pourquoi 45 degrés ? C'est parce que c'est une notion comme ça, on redémarre un autre plan, et on a l'impression que le temps a passé. La notion du temps, comme ça. Et regarde bien tous les grands... Bien sûr, j'avais déjà regardé tous les grands films. Bresson, Ozu, tout ça. Voilà. Et en trois plans de une minute, ils montrent une scène qui se passe pendant un quart d'heure, quoi. Donc ça, c'est le mirage. Et c'est l'écriture cinématographique. Et effectivement, le documentaire a des qualités, mais il a aussi ses défauts. Donc il faut effectivement l'améliorer. Et c'est vrai que quelquefois, moi, c'était avec Giscard, mais puis avec d'autres personnes aussi, au Palais de Justice, tous les films qu'on a fait avec Claudine, c'était comme des films de fiction, quoi. Les gens se conduisent comme des films de fiction. Et donc là, il faut être un peu malin parce que la reconstitution sera agréable à voir.
Bonsoir. On m'a demandé de faire un film pour les rencontres photographiques d'Arles. Je vais essayer de tenter de vous montrer des photos que j'ai faites depuis 57 jusqu'à 1977. Je suis né à Villefranche-sur-Saône, dans une ferme, en 1942, le 6 juillet. Mes parents étaient cultivateurs, et voici l'entrée de la ferme.
On entend un extrait, Raymond Depardon, des années de déclic sur vos débuts, film sorti en 84. Vous qui aimez tant les plans séquences, vous avez tourné le film en une prise et en direct. Et c'est dans ce film que j'ai appris que vos parents vous avaient offert une génisse et que vous l'aviez vendue pour un scooter.
Oui, absolument. Oui, parce que très vite, je me suis aperçu qu'il fallait un scooter.
Pour être pigiste.
Pour être un bon photographe de presse. Même pas pour être paparazzi, mais simplement pour passer d'un événement à un autre dans Paris, dans les rues de Paris, comme ça. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il faut aller voir l'exposition de Montpellier, parce que c'est formidable. En plus, à cette époque-là, je travaillais un peu en couleur, parce que c'était le début de la couleur, Extrême Hôtel. J'ai pris ce nom parce que j'aime bien quand je vais en Éthiopie, il y a un hôtel qui s'appelle l'Extrême Hôtel, là. Voilà. C'est mon PC. Moi, au départ, je vois, quand je vois un événement, quand je lis le journal, je le vois comme un reportage photo d'abord. Et puis après, quand je connais les gens, quelquefois, ou, enfin, c'est différent. Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre, parce que je parlais tout à l'heure de convaincre les paysans à se faire filmer, c'était du temps, mais moi, c'était aussi de convaincre les grands magistrats de laisser rentrer une caméra. Dans un certain nombre de pièces, comme ça, délit flagrant, l'instruction, la chambre d'instruction, la chambre de, ou les petites cours comme la dixième chambre, ou aux 12 jours le dernier, aucune caméra n'avait pénétré. Et voilà, et on filme les gens sans être floutés. Il y a un rapport de confiance avec eux. Et bon, ça c'est important.
Vous dites que pour vous, la caméra sert à enregistrer ce qui va disparaître et que c'est une façon d'être en colère contre le présent.
Oui, sans doute, oui, parce que moi, je suis né presque dans la colère, quoi. La colère d'être un fils de paysan, d'être mes parents, voilà, on leur a exproprié des très bonnes terres pour faire passer l'autoroute. Donc, j'entendais de la colère tout le temps. couleur. Alors, je serais né dans un autre métier ou dans un autre milieu, ça aurait été la colère des cheminots ou la colère des ouvriers, hein. Il y a beaucoup de colère en France. Et il faut essayer de, donc, voilà. Je pense que peut-être que le service public, alors je sais que les gens en ont un peu marre, quoi, mais va pas assez en profondeur, quoi, parce que, je sais pas, il y a quand même des, encore et toujours des trucs qui sont pas très drôles à faire, hein, tout, on les connaît à peine, parce que, par exemple, les femmes qui viennent de grandes banlieues, qui travaillent dans des grandes surfaces, et puis qui, elles reprennent le travail 6 heures après, et qu'est-ce qu'elles font, quoi, voilà, où elles vont se reposer, quoi. Et on a quand même été, les Anglo-Saxons étaient un peu en avance sur nous. Ils tournaient des choses vraiment, comme ils disent, it's fact. C'est le fait, c'est un fait. Mais nous, on a peut-être la chance, peut-être en étant latin, que la caméra qui tourne comme ça, elle est assez humaine. Elle est maladroite.
Elle vous protège parfois aussi. Il y a des films que vous auriez pas pu faire sans elle, sans vous cacher derrière.
Oui.
Je pense à Faits divers.
Moi, je trouve que c'est presque important, par exemple, ce qu'on faisait avec, Claudine, quand on fait des films. Et Claudine a l'habitude, parce qu'on cherche du regard quelqu'un, on cherche du regard le caméraman, on cherche le regard d'ingénieur du son. Et comme nous, on n'a pas de réalisateur, alors des fois, moi, j'arrête pour leur parler. Claudine aussi, on parle aux gens, quoi. On parle aux gens, parce que, avant de les filmer.
En parlant de parler et d'opposition au silence, vous avez beaucoup filmé le silence. Je pense à Une minute de silence de Nelson Mandela après sa sortie de prison. Je pense au film sur Yann Palach. Je pense aussi au cours 10 minutes de silence pour John Lennon. Vous préférez le silence ou les confidences?
Ah, mais le silence, c'est magnifique. Moi, j'en vois encore à la télé. Je me dis, ah, j'aurais dû y aller. Il y en a eu des très 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 beaux là, avec Samuel Paty, à mémoire de Samuel Paty dans des écoles. Fou. Ça va manquer parce que c'est pas forcément... Alors, une minute de silence, c'est rien et à la fois c'est long. Et c'est vrai que quand j'ai fait la minute de silence de Nelson Mandela, il était dans son bureau, il travaillait, et moi je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me faire une minute de silence avec la caméra qui est là? Voilà. Et il a fait 58-59 secondes, quoi. C'est formidable. Il avait le chrono dans la tête parce qu'il avait été longtemps en prison. Et il avait une notion du temps. Mais c'est vrai que Yann Palach, ça a été un choc pour moi, hein. Tous ces pays de l'Est qui voulaient accès à leur liberté. C'est impressionnant quand même parce que, voilà, il y a une espèce de force et, bon, et ça va jusqu'aussi, effectivement, 10 minutes pour John Lennon. C'était des funérailles, un hommage extraordinaire qui s'est passé à Central Park. Tout le monde s'est arrêté. Et il y avait des gens qui venaient du sud de la ville, de Wall Street, qui étaient en costume cravate, impeccable, très très bien habillés. Et puis il y avait des hippies un peu du centre de la ville, voilà, d'autres gens, d'autres. Et c'est les mêmes. c'est les mêmes qui écoutaient ces musiques de John Lennon.
Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habillé. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines.
C'est votre choix musical, Raymond Depardon, les 100 prochaines années d'Albin de la Simone.
Oui, c'est Claudine qui a découvert ça, bien sûr. Quelle merveille, des gens du Sud. En plus, là, voilà, de Montpellier. Et puis, c'est doux, c'est agréable. C'est vraiment une belle musique. Mais c'est vrai que j'ai été obligé, quand j'ai fait quelques films muets, j'ai été obligé d'apprendre à connaître les musiciens qui étaient, il y a une vingtaine d'années, qui étaient très forts, Arvo Part, des Ukrainiens, des Russes, tout ça, qui font des musiques. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, les films vont sortir, très bien, je suis très flatté, et il y a toute une génération qui n'ont pas vu ces films-là. Alors, ratez pas les courts-métrages non plus, parce que il y a deux, trois courts-métrages vraiment que, par exemple, New York, le travelling sur New York. Donc, c'est comme une photographie, c'est comme une carte postale. Je vous écris, puis voilà, il y a un début, une fin, puis c'est très court, et c'est des petites séquences comme ça qui peuvent être faites dans différents endroits où, avec les gens qui parlent comme ça. Donc ça, c'est important. Et puis, l'extrême hôtel choisi par Marie Pérennès et Simon Pardon, les photos, c'est, je suis content parce que, voilà, moi, je suis un vieux maintenant. Et donc, je voulais voir un peu comment des jeunes allaient réagir à mes photos, comme ça, les années 60. Voilà, et c'est très doux, et c'est très tendre, et c'est très... c'est un peu comme des chewing-gums, des sucres d'orge, là, comme ça. de l'époque 5, des années 50.
Alors je voudrais citer une de vos notes. « Quand je voyage, je suis comme un enfant. Ne pas essayer de séduire. À Paris, ils n'ont pas compris. »
Oui, ben oui, parce que j'ai fait des petits livres comme ça de poésie où j'ai écrit notamment Urgence, tout ça, j'ai écrit comme ça. Mais bon, l'écrit aussi, c'est passionnant. Hein, mais...
Qu'aimeriez-vous transmettre ?
Qu'on est tous un peu des poètes, un peu. Hein. On est... Moi, je sais que des gens, moi, je sais pas faire des photos, et mes photos, c'est, mais c'est pas vrai. Je pense qu'on aime bien la photo, on aime bien le cinéma, on fait des bonnes photos. Je vois là les gens maintenant autour de moi, et ils sont super. C'est des Leacock, des caméramans américains des années 60, là, pour des plans séquences et tout, enfin, incroyable, quoi. Et des portraits, et c'est très vivant, et ça fait plaisir à tout le monde de voir ça. Et donc, écrire aussi, ben oui, il faut écrire. Toujours écrire un peu, peut-être. C'est pas parce qu'il y a le téléphone, les moyens modernes, il faut pouvoir écrire un petit bout de papier avec une photo et puis un petit texte dessous, comme ça. Ça reste toujours aussi quelque chose. C'est Chris Marker qui disait voilà, le texte, il est relais ou ancrage. Alors, soit il est ancrage, ça veut dire il fait une légende de la photo. Mais il peut être en relais, c'est-à-dire une pensée qui nous traverse quand on a fait la photo ou quand on l'a regardée, beaucoup plus tard, et qu'on met les unes avec l'autre. C'est comme deux personnes. Et donc ça reste toujours accessible à tout le monde. Il n'y a rien de plus simple que de prendre un appareil photo. Là, maintenant, il y en a des numériques ou je ne sais pas quoi, mais incroyable, des petits. C'est très simple. Et puis. On n'est pas forcément obligé de photographier les gens, on peut photographier des paysages, et la nature, la lumière.
Merci beaucoup Raymond Depardon.
Merci.
Je rappelle que votre livre « Désert » est paru aux éditions de la Fondation Cartier pour l'art contemporain et que vous êtes l'invité avec Claudine Nougaret de la 47e édition du Festival Cinémètre de Montpellier où a lieu jusqu'au 25 octobre une grande rétrospective de vos films. À cette occasion et jusqu'au 29 avril 2026, il y aura des ressorties de vos films en salle. Toutes les infos sur le site depardoncinéaste.com. Je rappelle aussi l'exposition Extrême Hôtel dédiée à votre travail photo couleur au pavillon populaire à Montpellier du 3 décembre prochain au 12 avril 2026. Vos deux moyens-métrages à la Fondation Cartier, Donner la parole et Chasseurs et chamans, visibles dès l'ouverture le 25 octobre. Et enfin, les photos que vous avez prises à Auschwitz-Birkenau en 79, qui restent exposées jusqu'au 9 novembre prochain au Mémorial de la Shoah à Paris. Un catalogue a été publié à cette occasion chez Calman Lévy. Cette émission a été réalisée par Mathias Volant, préparée par Céline Villegas, Alexandra Conet et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Mélissa Etroit.